RMC. Grand Plateau. Christophe Cessieux.
Salut à tous, cette fois-ci, on y est. Pour la première fois de son histoire, l'Italie accueille cette année le grand départ du Tour de France. Et pour l'occasion, Florence, la Toscane et toute la péninsule délaissent l'espace de quelques jours le rose du Giro pour se parer du jaune du Tour de France. Un tour au parcours très particulier qui s'achèvera. Et là aussi, c'est une première, non pas à Paris, mais sur la promenade des Anglais à Nice, le 21 juillet prochain, par un contre-la-montre. Oubliez l'espace d'une édition de la traditionnelle journée Petit Four Champagne, remplacée par un chrono dont on espère évidemment qu'il sera aussi décisif et trépidant qu'il l'avait été en 1989. Toute l'équipe de Grand Plateau est déjà à pied d'œuvre ici à Florence en attendant le départ du Tour samedi. On a hâte, comme tous les ans, de vous faire vivre cette grande boucle dans l'intégrale Tour de France d'RMC qui débutera donc samedi et qui se poursuivra jusqu'au 21 juillet. En attendant, le casting de Grand Plateau du jour, le voici, le voilà, avec Jérôme Coppel, affûté comme jamais, comme une lame, notre haut savoyard. Ça va mon Jérôme, en pleine forme ?
Ça va, salut mon Chris, salut Pierre-Yves, en pleine forme, toujours, toujours.
Voilà, à ses côtés, lui aussi a fait le métier durant le printemps. Il est sec toujours, comme un coup de trique. Toujours. L'un des deux Bretons de la bande, Pierre-Yves Leroux.
Salut Christophe, salut Jérôme.
Sur la balance, qui est le plus léger des deux ?
70.
Ah, 67, j'ai de la marge. Christophe ?
Ouais, 52.
Ouais, par jambe.
Et on accueillera tout à l'heure Arnaud Souk qui est parti voir Tadej Pogacar et surtout Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant qui vient de donner sa première conférence de presse 12 semaines pile poil après sa terrible chute dans le Tour du Pays Basque. L'état de santé du Danois, qui est d'ailleurs le grand sujet d'interrogation de cet avant-tour, a-t-il récupéré ? Peut-il prétendre à remporter un troisième tour d'affilée ou va-t-il uniquement faire de la figuration ? Les questions sont sur toutes les lèvres. On verra tout à l'heure s'il répond à quelques-unes de ses interrogations. Enfin, notre druide sera là, lui aussi, tout à l'heure dans Grand Plateau. Il vient de débarquer en terre toscane et s'il parvient à braver les bouchons de Florence, il a promis de passer une tête dans Grand Plateau. Du rose au jaune, l'Italie, terre de cyclisme, a changé de couleur depuis quelques jours et s'apprête à faire la fête autour. Deux couleurs, deux maillots et peut-être un même vainqueur. Après avoir remporté le Giro, Tadej Pogacar s'avance en grandissime favori de cette grande boucle avec, on l'espère, un duel au sommet comme les deux précédentes saisons avec Jonas Vingegaard.
Vingegaard qui s'envole et désormais dans la montée, est-ce que Pogacar va pouvoir réagir ?
Non,
il ne réagit pas, Tadej Pogacar, il laisse Vingegaard s'envoler.
Ça nous annonce vraiment un match incroyable dans ce Tour de France, la 110e édition du Tour.
C'est accélération parti. Pogacar qui accélère, Vingegaard qui se dresse sur les pédales.
Wow. Oh les motos, c'est pas
les
possible,
motos qui les motos le spectacle, c'est pas possible ça.
C'était parti pour Vingegaard, Pogacar dans la roue qui va être un petit peu court, Vingegaard est en tête, c'est Vingegaard qui prend les 8 secondes, Vingegaard qui avait démarré, Pogacar qui va placer un compte. Pogacar qui place un compte pour aller partir dans la descente en premier. C'est Rodriguez qui s'impose, mais comme un boulet de canon, Pogacar qui va arriver pour grappiller les quelques secondes qu'il avait perdues au sommet de Jouplan. Il termine deuxième devant Vingegaard, quatrième Adam Yates.
16 secondes de mieux pour Vingegaard. Incroyable performance du maillot jaune dans ce début de contre-la-montre. Tadej Pogacar est-il en train de perdre le Tour de France ?
On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes. C'est un coup énorme aujourd'hui qu'est en train de réaliser Jonas Vingegaard.
Attention, Pogacar est en dernière position du groupe maillot jaune. Oh, Tadej Pogacar en difficulté. Tadej Pogacar en difficulté dans ce col de la Loze, alors qu'on n'est pas du tout dans les pentes les plus difficiles du col de la Loze.
C'est parti pour
Vingegaard. C'est parti tout seul. Oh, tout seul Vingegaard désormais dans le col de la Loze. Il n'y a plus personne avec lui. Vingegaard est arrêté. C'est encore la panique sur la route du Tour. Vingegaard est bloqué par les voitures. 5 minutes qu'il est passé Vingegaard et lui, il va prendre un coup sur la tête terrible. Ça va être aujourd'hui sans doute une des plus grosses claques de sa carrière.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, non plus sur la route du Tour, mais sur les Champs-Elysées. Ben oui, c'est la dernière étape aujourd'hui de ce Tour de France 2023. Et pendant ce temps-là, Jonas Vingegaard est fêté par tous les membres, tout l'encadrement de la formation Jumbo-Visma. Il a même été soulevé par son patron il y a quelques instants. Voilà, des grands moments que nous avons vécus en juillet 2023. Ça fait plaisir de se rappeler de ces bons souvenirs parce qu'on avait quand même assisté à un tour exceptionnel. Alors, sera-t-il du même niveau cette année ? C'est vrai que sur le papier, quand on regarde franchement la liste de départ, on croit rêver, Jérôme, parce que tous les cadors du cyclisme actuel sont là, que ce soit les prétendants au classement général, Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel, que ce soit les grands champions des courses d'un jour, Van Aert est là, Van Der Poel. Et là, franchement, le plateau, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un plateau d'une qualité aussi importante.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et surtout qu'on sort d'un Tour d'Italie où il n'y a pas vraiment eu de match, où le plateau était un peu, on va dire, biaisé avec Pogacar au-dessus du lot. Mais là, on les a vraiment tous. Maintenant, est-ce qu'on aura autant de bagarres que les autres années? C'est pas sûr, hein, on va en discuter après, mais ils sont tous là, mais il y en a quand même un qui ressort un peu du lot. On verra. Moi, je pense qu'on va assister à un beau tour parce que le tracé a été fait pour être magnifique très vite, très tôt, dès la première étape. On va voir ce que ça donne, mais on devrait avoir du beau spectacle.
C'est vrai que cette chute autour du Pays Basque, intervenue début avril, a quand même ruiné pas mal d'espoir, fait envoler pas mal d'illusions. On rappelle que dans cette terrible gamelle, Vingegaard est reparti avec des côtes et une clavicule cassée, plus un pneumothorax, Pierre-Yves. Mais il n'est pas le seul. Oui. Roglic et Evenepoel ont également chuté, ont été blessés dans cette gamelle qui a rebattu complètement les cartes.
C'est vrai qu'on réclamait cette affiche pour le Tour un jour. On l'a enfin, parce que Evenepoel, l'événement a été repoussé d'année en année. On souhaitait le voir sur ce Tour de France. Il est là. Et puis, il y a eu ce début de saison qui nous a un petit peu brisé le moral en se disant bah, finalement, on n'aura pas l'affiche. Alors, ils sont là, effectivement. Mais on a des doutes sur les capacités à être à 100%, à être au top de tous ces leaders. Et on se dit, il n'y en a qu'un qui est vraiment au-dessus puisqu'il l'a montré sur le Giro. Alors moi, j'espère qu'on va avoir des surprises, que justement, peut-être que Pogacar sera un petit peu en dessous de ce qu'on imagine, que les autres seront finalement plus près de leur 100% et que ça va niveler un petit peu tout ça. Bon. C'est toute la joie et le bonheur d'un Tour de France et d'une compétition qui dure 3 semaines.
Il y a une donnée dont on n'a pas parlé, qu'il faut prendre en compte, c'est la chaleur. La chaleur, on n'en a pas encore parlé, mais il fait très très chaud et les coureurs n'ont pas eu du tout de chaleur jusqu'à maintenant.
C'est pas les seuls.
Ça fait 6 mois que c'est l'hiver.
Ouais, mais on sait que Pogacar, il n'aime pas trop la chaleur. Ouais. Ça va démarrer tout de suite très dur. Attention au coup de chaud.
Alors, il disait tout à l'heure en conférence de presse qu'il s'habituait année après année à être plus endurant sous la chaleur. Il a d'ailleurs donné une information, on reviendra tout à l'heure sur le duel entre Pogacar et Vingegaard, mais il a donné quand même une information qu'on ne connaissait pas. Il a été atteint du Covid il y a une dizaine de jours. Un Covid a priori pas très violent, mais qui l'a quand même empêché de s'entraîner pendant 2 jours. Et on sait que cette maladie peut avoir des effets à moyen terme. Donc, on ne connaît pas exactement l'état.
Lui, il a atténué l'effet du Covid en disant « Je l'ai déjà eu par le passé. On sait qu'il est moins virulent. Donc, je ne suis pas très inquiet. Ça va
c'est,
bien. »
C'est surtout déjà bien qu'il soit au départ. Ce qui n'est pas le cas de Sepkus ou Tao Geoghegan-Hart, par exemple, qui ont eu le Covid et eux qui ont déclaré forfait. David Gaudu est dans le même cas que Pogacar. Il a eu le Covid, mais il est là au départ. Mats Pedersen aussi. Alors, on a pu discuter avec Pierre-Yves, avec Julien Bernard tout à l'heure, qui nous disait que lui aussi, Mats Pedersen a dû s'arrêter 2-3 jours, mais que finalement tout est bon. Chicone aussi, hein, ils ont été quand même deux dans l'équipe Lidl Trek à avoir eu le Covid, mais ça n'a pas eu l'air d'être trop violent et ils ont l'air à 100% de leurs moyens. Donc si c'est pareil pour Poggi, c'est tout.
Voilà, Poggi qui expliquait, de toute façon, le Covid, c'est plus aussi virulent qu'il y a 4 ans, évidemment, où lorsque tu étais atteint du Covid, tu en avais pour au moins un mois avant de récupérer. Là, il s'est pas montré très, très inquiet. Très inquiet. Et même le fait de le dire, c'est
même
que ça
surprenant
va,
parce d'ailleurs.
Autrement, tu aurais pu le cacher.
Bah ouais, c'est assez surprenant. Il doit quand même être sûr de ses billes.
Et il a ajouté aussi un autre élément et qui, dans les émotions, peut être important. Il a perdu son grand-père ces derniers jours.
Exactement.
Donc, il y a eu quand même des événements là sur ces dernières journées d'avant-tour qui peuvent avoir des effets physiques ou psychologiques.
Et il a quitté Monaco pour se rendre en Slovénie pour assister aux obsèques de son grand-père. L'Italie qui accueille donc le grand départ du Tour. C'est la première fois que notre voisin transalpin, la riche histoire cycliste, organise le départ de la Grande Boucle. L'Italie qui est un grand pays de cyclisme, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste à la même passion, par exemple, qu'on avait vu au Danemark il y a 2 ans, notamment lors de la cérémonie de présentation, il y avait des milliers de spectateurs, tout le monde était dingue. Ou même en Angleterre il y a quelques années. Là, c'est vrai que l'Italie est plus habituée aux grandes courses cyclistes. Donc, moi, je ressens un peu moins de passion. En plus, on est quand même dans une ville musée où tous les gens ne viennent pas à Florence pour le Tour de France, mais pour voir aussi le Duomo et les autres magnifiques bâtiments de cette ville de la Renaissance.
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'au Danemark, le pays est déjà tellement petit. Ils attendaient ce grand départ depuis tellement longtemps. Voilà, il y avait énormément de monde. Là, il y a quand même pas mal de monde à la présentation des équipes. On va voir sur les premières étapes s'il y a autant de monde aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont le Giro, ils ont des grandes classiques, ils sont habitués à tout ça, même si c'est le Tour de France, même s'ils n'ont jamais eu, voilà, ils connaissent des grands départs de grandes courses. Mais je pense qu'il va quand même y avoir une belle effervescence. Et puis le public italien, c'est vraiment des connaisseurs. C'était Steve Morabito qui avait fait cette remarque il y a quelques années. Il avait dit la différence entre le Giro et le Tour, c'est que le Giro, c'est comme si les spectateurs vont au musée, ils connaissent et ils vont regarder des œuvres d'art, alors qu'au Tour de France, c'est au cirque qu'ils vont. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas des connaisseurs en juillet, c'est des gens qui regardent passer le Tour devant leur porte parce qu'ils sont en vacances, alors qu'en Italie, ils vont vraiment parce qu'ils aiment le vélo. Donc là, on a vraiment un public de connaisseurs et je pense qu'on va vivre des belles premières étapes.
Tu préfères être comparé à un tableau plutôt qu'à un clown, c'est ça?
C'est ça, mais j'ai jamais fait le Giro. Giro, donc c'est pour te dire dans quelle catégorie je suis.
Et on est aussi sur les terres d'Estrade Bianche, hein, qui se déroule à quelques kilomètres seulement de Florence, avec l'arrivée à Sienne notamment, qui est toujours un moment important et qui est l'une de, qui n'est pas encore considérée comme un monument, mais qui n'en est pas loin tout de même. L'Italie qui a certes de grandes courses, mais qui a bien besoin d'un coup de pouce du Tour de France, Pierre-Yves, pour booster ses coureurs. Ce pays qui a donné tant de grands champions est actuellement au creux de la vague, mais vraiment tout au fond de la vague, peut-être même plus encore que la France, même si la dernière victoire italienne dans la grande boucle remonte à 10 ans seulement, avec le requin de Messine, évidemment, qui s'était imposé, et non pas bientôt 40 ans. Mais enfin, il n'empêche, ce n'est pas la folie, hein, pour le cyclisme transalpin.
J'ai vérifié, Christophe et Jérôme, deux fois quand même, j'ai recompté deux fois sur la liste de départ, et je n'ai trouvé que 8 coureurs transalpins pour ce premier départ en Italie du Tour de France dans l'histoire. Ils n'étaient que 7 l'année dernière. C'est quand même assez incroyable. Vous savez, on en parlait il y a quelques instants. Combien il y avait de coureurs danois il y a 2 ans au départ de Copenhague ? Est-ce que vous vous souvenez ?
Ils étaient beaucoup, parce qu'ils étaient 8 ou 9.
Ils étaient 10. Ils étaient 10. Il y aura autant de coureurs italiens là, que de coureurs allemands. C'est lancé samedi de Florence. Et l'Italie se cherche successeur à Annibali, vainqueur effectivement il y a 10 ans. Première explication, depuis 2017, il y a l'arrêt de l'équipe Lampre Merida, eh bien, le cyclisme italien masculin n'a plus d'équipe World Tour, donc il n'y a plus de leader, il n'y a que des équipiers, ou presque, dans ce peloton dorénavant. Et dans ce pays de petites et moyennes entreprises, il n'y a pas de gros investisseurs qui souhaitent mettre plusieurs dizaines de millions d'euros pour investir et succéder à la Mapei, la Liquigas ou la Fassa Bortolo, des noms célèbres dans le vélo. Et on sait qu'aujourd'hui, bien, les budgets ils sont de plus en plus importants. Et seconde explication, les affaires de dopage du début du XXIe siècle, la chute brutale et la mort du pirate Marco Pantani, qui ont également eu des effets désastreux sur l'image du cyclisme ici en Italie. La ferveur s'est étiolée, l'image héroïque du cycliste transalpin est au tapis depuis 2 décennies. Seul motif d'espoir pour les tifosi, la jeunesse, parce que l'an passé, l'Italie s'est classée première au classement mondial chez les moins de 23 ans. Rendez-vous donc peut-être dans quelques années pour voir si le cyclisme transalpin a su ressusciter, mais il faudra être patient.
Voilà, pays évidemment fondateur du vélo avec la France, avec la Belgique ou l'Espagne, et qui évidemment est dans la même situation que la France et l'Espagne. Jérôme, cette période compliquée, bon, on sait que le cyclisme aujourd'hui s'est internationalisé, hein, on disait les Danois, les Allemands sont là, les Américains, les Australiens, les Slovènes aussi, hein, qui sont au sommet, qui ne sont pas beaucoup, mais qui sont très très performants. C'est quand même dommage, parce que tu le disais, c'est un vrai pays de vélo ou qui passionne les foules.
Ouais, c'est dommage, mais voilà, ça reste toujours un peu cyclique. Ils ont eu dans la foulée un peu Ivan Basso et Vincenzo Nibali qui étaient très forts sur les grands tours. Après, on a eu Fabio Aru qui a quand même gagné la Vuelta en 2015. On pensait que ça allait être le successeur de Nibali pour le Tour de France. Finalement, ça s'est pas fait. On a eu un peu une étincelle avec Caruso qui a fait deuxième du Giro en 2021. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de coureurs de grands tours. Alors, ils ont Ciccone qui est spectaculaire, qui veut viser un peu le classement général, mais qui n'a pas la carrure pour aller faire un podium, je pense.
Tibéri qui arrive un petit peu.
Voilà, justement. Alors, il y a Tibéri qui fait quand même cinquième du Giro. Et Pierre-Yves, tu en as parlé des jeunes. Ils ont surtout 2 très jeunes. Là, ils ont Pellizzari qui a fait 2e d'une étape du Tour d'Italie. Il a seulement 20 ans. Et puis Piganzoli qui a fait 13e du Giro au classement général cette fois cette année. Il n'a que 21 ans aussi. Donc, ils ont 2 très grands espoirs.
2 et 3 du Tour de l'avenir.
Ouais, 2 et 3 du Tour de l'avenir. Et voilà, un peu à l'image d'un Lenny Martinez pour nous, l'Italie fonde beaucoup d'espoir sur ces 2 coureurs-là. Mais c'est vrai qu'en attendant qu'ils arrivent à maturité et en attendant qu'ils soient capables de gagner le Tour, il va encore se passer quelques années.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils font un des U23 et la France est 2e. Donc on va revenir.
Ah ouais.
Et 2 nations en même temps.
Entre la France et l'Italie, il y en a marre des Slovènes et des Danois. On veut des champions de la vieille Europe. Si l'Italie n'a pas de grands champions actuellement, elle en a eu évidemment par le passé. Et tout au long de ces 3 jours que nous allons passer en Italie, le Tour va rendre hommage au Felice Gimondi, au Fausto Coppi et surtout Marco Pantani qui ont tous remporté la grande boucle. Le premier vainqueur italien de la grande boucle, messieurs. Vous savez qu'on fête cette année le centenaire de sa première victoire italienne. Vous l'avez évidemment, puisque je vous ai mis la question dans le texte, donc vous avez pu vérifier.
Je l'ai lu, je l'ai déjà oublié.
Je ne sais pas. Maurice Garin, parce qu'il était né dans le Val d'Aoste, tu sais. En fait, il était né en Italie.
Tu as raison, tu as raison. Hein,
on l'appelait le petit ramoneur italien. Il avait franchi la frontière à 14 ans pour aller travailler en France. Donc, il était né en Italie, mais c'est une victoire française. Non, c'est Bottecchia.
Ottavio
Bottega, il y a un siècle.
Voilà, il avait remporté le Tour en 1924. En 1926, il avait été retrouvé mort sur une route d'entraînement dans des conditions troublantes. On n'a jamais su si c'était un accident ou un assassinat 2 ans après sa victoire dans le Tour. Le départ de la péninsule italienne offre évidemment un magnifique cadre aux traceurs du Tour, car dans ce pays, des bosses et de la montagne, il y en a un peu partout. Et on va vite le découvrir lors des deux premières étapes, Jérôme, qui pourrait faire de grosses différences tout de suite. Voilà, on l'espère. Sans trop l'espérer non plus, quoi. Pas de trop grosses différences.
On est content parce que les premières étapes sont déjà spectaculaires. Hein. La première étape, 206 km, 3600 mètres de dénivelé positif. C'est la première étape la plus dure que le Tour ait proposée depuis sa création. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que si ça se trouve, dans une semaine, à la première journée de repos, peut-être même avant... Quand à la fin de la quatrième étape à Valoire, le Tour sera peut-être déjà plié. Parce qu'on rappelle, tu l'as dit, Vingegaard a chuté. S'il met du temps un petit peu à mettre en route, Pogacar, lui, arrive au top de sa forme. Si j'étais Pogacar, dès samedi et l'étape de Valoire, j'essaierais de mettre Vingegaard dans les cordes et de lui reprendre du temps. Donc voilà, la première étape est très dure. La deuxième étape, avec la fameuse côte de San Luca que les coureurs passent au Giro d'Emilia, c'est quand même 2 km à 10%. Les trois premières étapes font 200 km ou plus. Et voilà, c'est un début de Tour costaud, on va avoir du spectacle, mais le Tour peut être plié. Voilà, peut-être qu'après Valoire, on a déjà le deuxième qui a plus de 2 minutes au classement général.
C'est un peu risqué finalement de faire si dur, si vite, parce que Poggi, on l'a bien compris, va avoir dans l'idée de tuer le game très rapidement, avant peut-être que Vingegaard récupère
en puissance,
une condition physique capable de...
Mais c'est toujours, on veut du spectacle, mais le risque, c'est que ça tue tout. Moi, ça me fait sourire un départ comme ça. J'adore ça, mais en même temps, ASO disent tout le temps, vous savez que j'adore le chrono, on ne veut pas mettre des chronos trop longs parce que ça tue la course. Puis d'un coup, on a une première étape avec 3600 mètres de D+, le Galibier à la quatrième étape, ça se trouve, au bout de 4 étapes, le Tour est plié et on peut tous rentrer à la maison. Donc moi, je préférais un départ un peu moins costaud et puis des beaux chronos pour que ça soit vraiment un coureur complet qui gagne le Tour.
Mais quand ce tracé est écrit... on sait, hein, c'est plus d'un an à l'avance. Oui. On imagine qu'il y aura cette concurrence qu'on évoquait tout à l'heure et que ça peut être dès le début une première semaine fantastique de bagarre et que ça se joue à très peu de choses. Sauf que le scénario a évolué sur ces derniers mois. Ah. Mais peut-être qu'on va quand même garder ce suspense.
Voilà. Après, attention, on va
peut-être
pas...
que le Covid finalement de.
Oui, et puis les coureurs sont arrivés comme nous mercredi, ils piétinent un peu, ils roulent un peu, mais pas beaucoup. Faut manger. Des fois, la mise en route est compliquée. On va pas éliminer Roglic non plus parce que lui a quand même gagné le Dauphiné. Alors, ok, il a chuté au Pays Basque, mais sans trop de gravité, on va dire. C'est peut-être celui qui, en tout cas au départ, présente peut-être presque le plus de certitude, plus que Vingegaard par exemple. Remco Evenepoel, j'y crois pas trop parce que. Je ne sais pas, une victoire d'étape et un top 5 peut-être, mais je ne le vois pas se mêler à la bagarre avec les Cadors. Pourquoi pas ? Et puis après, personne n'est à l'abri d'une défaillance non plus. Hein. Donc, en tout cas, le tracé se prête au spectacle.
Alors, outre ces deux premières étapes, on aura donc, tu le disais, l'étape du Galibier. Ce sera lors de la quatrième étape, hein, donc première semaine très dure. Et puis, les chemins blancs autour de Troyes qui auront lieu... lors de la 9e étape, c'est vrai qu'on va pas s'ennuyer durant cette première semaine.
Non,
et puis ce sera loin d'être fini derrière.
Bien sûr, et puis entre-temps, il y aura quand même eu un petit chrono de 25 km, donc il n'est pas très dur, mais quand même, le chrono 25 km, suffit que vous ne soyez pas très bien, vous pouvez prendre un petit carton. Et puis voilà, c'est fameux, tu parlais des Strade Bianche, alors là, ça sera un peu les Strade Bianche à la française, hein, 32 km de chemin un peu empierré. Les filles avaient déjà fait au Tour de France 2022 ces mêmes chemins. Donc là, pareil, de nouveau, on sait, Pogacar est fort, mais personne n'est à l'abri d'une crevaison au mauvais moment, pas d'équipier. On sait que sur ce type de course, un peu comme Paris-Roubaix, les voitures ne sont pas forcément tout de suite là derrière. Voilà, il peut se passer plein de choses sur la première semaine. Quand on va arriver à la première journée de repos, je pense que le terrain se sera bien éclairci, on y verra bien plus clair. Mais en tout cas, d'ici là, il peut se passer vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, on évoquait tout à l'heure les Italiens, pas vraiment à la fête. Que dire de nos Français ? Un tour qui se disputera sans Thibaut Pinot, sans Julien Alaphilippe, qui avaient été quand même les deux grands animateurs français des éditions précédentes. Y a-t-il des garçons capables cette année de nous les faire oublier ? Et à qui pensez-vous ? Je vais te demander à toi, Jérôme.
Il y a plusieurs nouveautés. Alors, Lenny Martinez, bien sûr, on va en parler. Il n'était pas vraiment.
On l'attendait pas.
On l'attendait pas. Il n'était pas prévu. Marc Madiot nous a fait la surprise de le mettre dans l'équipe. Paul Lapeyra, bien sûr, qui vient d'être champion de France, qui est au top de sa forme et qui est capable de faire de belles choses. Axel Lorenz aussi, hein, qui est dans l'équipe de Van Der Poel. Alors, est-ce qu'il devra se mettre au service de Philipsen et Van Der Poel sur toutes les étapes, ou est-ce qu'il aura de temps en temps sa chance? Pourquoi pas? Et puis après, pareil, un coureur qu'on n'annonçait pas forcément dans la formation parce qu'il semblait sur le départ de l'équipe Cofidis, c'est Axel Zinglet qui marche aussi très bien depuis le début de saison. Donc voilà, des novices du Tour, il y en a qui sont capables de faire vraiment de très belles choses. Pareil à Romain Grégoire, on peut le rajouter. Donc on a quand même des Français qui vont être capables de faire des exploits. Pour le classement général, moi je ne me fais aucune illusion là-dessus. Je ne suis même pas sûr qu'on en ait un dans le top 10, mais on verra. Par contre, pour aller chercher des étapes, on a de la matière.
Donc tu élimines les grands anciens, Romain Bardet ou Arend Barguil, avec leur culture des grands tours?
Non, justement.
Ah, mais tu ne les as pas cités?
Oui, parce que j'ai cité les néophytes. Ah. Les néophytes en premier. Mais Romain Bardet, on l'a vu aussi tout à l'heure, sûrement son dernier tour. On sait qu'il est très fort, il est très malin. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il oublie le classement général. On s'en fout qu'il a le faire 8e, 10e ou 7e, qu'il vise des étapes, qu'il prenne 10 minutes quand il doit prendre 10 minutes et qu'il parte à l'abordage pour aller gagner des étapes.
Et puis moi, je vais rajouter un coureur, parce que lui, il est arrivé vraiment au dernier moment, juste avant la présentation, parce qu'il a été papa 24 heures avant la présentation sur le Tour. La naissance est moyennement bien passée, donc il a repoussé son arrivée ici. C'est Bruno Armirail, et qui est arrivé vraiment par le dernier avion, juste alors qu'on avait inscrit son nom sur la liste de départ. Et on a vu Vincent Lavenu, le responsable de l'équipe Décathlon, un peu stressé en se disant « Mais est-ce qu'il va réussir à arriver? Est-ce qu'il va être là pour la présentation ?» On a vu Bruno Armirail, le nouveau champion du chrono, arriver tout sourire. Lui aussi, il a vécu des émotions énormes, la naissance, le stress de voir son bébé avec des difficultés, et puis le Tour de France qui va s'enchaîner. Et c'est un super coureur, Bruno Armirail.
C'est un super coureur. Il a même fait un bout du trajet en vélo parce qu'il n'a pas roulé depuis 2-3 jours avec la naissance et tout. Du coup, il a fait un bout en vélo pour se dégourdir un peu les jambes. Je sais pas, c'était sur l'autoroute. Bah, il roule tellement vite qu'il pourrait prendre l'autoroute. Hein.
La surprise des compos, tu le disais il y a quelques instants, est donc venue de la Groupama FDJ. Marc Madiot nous avait dit qu'il ne sélectionnerait pas Lenny Martinez. Oui, mais il a changé d'avis. Alors pourquoi a-t-il changé d'avis? On va l'écouter tout de suite.
Il y a bien longtemps que c'était prévu. Je pense que c'est une assez bonne approche avec les jeunes. Ils ont eu un programme de course, notamment Lenny cette année par rapport au Tour de France. En fait, il était sur un programme qui lui permettait de faire un grand tour, mais on ne savait pas encore lequel, si ça allait être le Tour de France ou le Tour d'Espagne. Mais tout son début de saison et sa préparation permettaient les deux options, en fait. On a laissé mûrir les choses. Les tests qui ont été réalisés après le Tour de Suisse nous ont pleinement rassurés sur les moyens physiques de Lenny, ce qui fait qu'on part sans appréhension, on part avec envie, désir et gourmandise sur ce Tour de France avec tous ces jeunes coureurs.
C'était prévu de longue date, nous dit Marc Madiot. Il se fout de notre gueule quand même, hein, parce qu'on l'a quand même interrogé il y a deux semaines ou trois semaines dans les grandes gueules du sport. Il était péremptoire. Non, il n'y aura pas de Lenny Martinez. La semaine d'après, avec Arnaud Souk dans le podcast, Arnaud disait je crois quand même qu'il a, il y a peut-être une petite chance de l'avoir. Je ne sais pas si ça a été décidé.
Et après,
si
il nous parle du Tour de Suisse. Le Tour de Suisse, c'est terminé il y a 10 jours. Hein.
Ouais.
Donc et Lenny Martinez a confirmé qu'il avait reçu un appel à la fin du Tour de Suisse.
Bien
donc,
sûr.
Je pense que ça s'est quand même joué dans les derniers instants et dans la dernière ligne droite.
Bon, pourquoi ce choix? On sait que Lenny Martinez ne sera vraisemblablement plus à la Groupama FDJ la saison prochaine. C'est donc une petite pépite qui a réalisé un début de saison incroyable. On sait que David Godu est plutôt à la rue depuis le début de la saison. En fait, il n'avait pas vraiment le choix.
Je crois que tu as donné les deux raisons. Je pense que David Godu ne donne pas vraiment de certitude. J'ai l'impression que Marc Madiot et l'équipe Groupama FDJ sont un peu en train de changer leur fusil d'épaule en arrêtant de miser un peu tout sur Godu, en lui demandant de s'accrocher au leader, etc. Et qui vont plutôt, en tout cas si j'étais eux, c'est ce que je ferais, si Godu prend un peu des cartons, c'est pas grave, et jouer le classement général, mais en prenant des échappées et en allant se replacer comme ça, en même temps, il pourrait jouer une victoire d'étape. Et après, il vise vraiment justement les victoires d'étape avec Lenny Martinez. Et je pense que si Lenny restait à la Groupama FDJ, il ne serait pas sur le Tour de France cette année. Parce qu'on l'a quand même vu au Tour de Suisse, il était quand même un peu, on a l'impression qu'il était un peu peu en fin de cycle. Et puis là, ben, c'est quand même une star du cyclisme français, Lenny, même s'il est tout jeune maintenant. Les spectateurs veulent le voir. Nous, les journalistes, on veut le voir sur le Tour de France. Mais je pense que s'il était resté à la FDJ, il aurait fait la Vuelta. Il l'aurait fait souffler. Il serait parti à la Vuelta. Là, voilà, ils disent, ben, on y va. Si tu peux gagner une étape, tant mieux. Et si tu finis cramé, ben, c'est pas grave. Ta saison s'arrêtera.
Fut un temps quand tu avais décidé de quitter ton équipe à la fin de la saison.
Ah, il a bien changé, Marc Madiot. Il a bien changé. Mais il a changé dans le bon sens, il faut le dire. À une époque, et pas que Marc Madiot, attention, il y avait d'autres managers. Si tu signais ton contrat.
C'est une récompense pour un coureur de participer.
Mais ça ne doit pas être une récompense, normalement. Ça ne doit pas être une récompense. Mais il privilégiait ceux qui re-signaient dans l'équipe ou ceux qui allaient rester dans l'équipe pour avoir une continuité, travailler sur le long terme, etc. Donc moi, j'ai connu ça avec Marc Madiot. Hein. Si je ne signais pas mon contrat, je ne participais pas au tour. Et c'est arrivé avec plein d'autres aussi. Maintenant, ce n'est plus le cas. On le voit, il y a beaucoup de. Et c'était beaucoup les managers français hein, qui faisaient ça, notamment. Maintenant, ce n'est plus le cas et tant mieux. Et je pense que Lenny, hein, on sait qu'il va partir. Et c'est bien qu'il découvre le tour, finalement. Et ça lui fera de l'expérience pour les années à venir. Ce n'est pas Marc qui va en profiter, mais le cyclisme français.
Et ça peut enlever un petit peu de pression aussi à David Gaudu, qu'on a vu très détendu lors de la présentation. Hein. David Gaudu, tout sourire, voilà, qui va peut-être se dire, bah, finalement, tout le poids de l'équipe n'est pas sur moi. Et il va peut-être avoir des coups à jouer. Voilà, ça peut être très positif, finalement.
Bien sûr, mais David, c'est un peu dans le même esprit que Romain Bardet. Je pense qu'il faut qu'il arrête avec le classement général, en tout cas pas cette année et pas sur le Tour, et qu'il aille chercher des étapes. C'est quand même un super coureur, il n'a encore pas gagné grand chose, on va dire, pour le niveau qu'il a. Maintenant, il faut qu'il aille chercher les étapes. Et Groupama FDJ avec Romain Grégoire, avec Lenny, avec David Gaudu, ils ont quand même de quoi aller chercher des étapes.
Ouais, effectivement. Lenny Martinez, que nos reporters ont rencontré tout à l'heure en conférence de presse. Alors, dans quel état d'esprit aborde-t-il ce Tour de France ? Sa réponse tout de suite.
J'ai fait un très beau début de saison et voilà, là, de venir sur le Tour, c'est. Voilà, je remercie l'équipe, je pense que c'est une bonne opportunité et voilà, on va essayer de faire quelque chose de grand ici. Personnellement, moi je vais essayer de faire voilà, des coups d'éclat, aller chercher des étapes et me fixer des objectifs comme ça. Et voilà, le reste, ça va être surtout une bonne prise d'expérience quand même. Honnêtement, ça fait un peu peur quand on voit souvent les étapes, les débuts de tour, c'est un peu chaotique, je dirais. Et donc là, sur un parcours comme ça, je pense que ça va être vraiment, vraiment dur. Donc voilà, je pense que ça va être un très dur début de tour et puis voilà, il va falloir bien s'accrocher. Quoi.
Il va falloir s'accrocher, évidemment. Premier Tour de France pour Lenny Martinez, dont le grand-père avait écumé les routes du Tour. Meilleur grimpeur, je crois, hein, dans les années 70. Le papa, lui, a été champion olympique de VTT. C'était à Sydney en 2000. Grande famille du vélo. Et on va voir si Lenny peut faire aussi bien que son grand-père sur les routes du Tour. La Groupama FDJ qui doit faire face à la concurrence redoutable de Decathlon AG2R, la mondiale, qui réalise une saison incroyable. Hein. J'en veux pour preuve la victoire dimanche dernier dans le championnat de France de Paul Lapeyrac, qui est la jeune pépite, l'une des jeunes pépites de la formation française, équipe managée depuis quelques mois par Dominique Serias, qui est l'ancien patron de l'écurie Mitsubishi, qui faisait évidemment du sport mécanique et avec laquelle il a gagné 7 Paris-Dakar. Serias est très ambitieux. Il a annoncé, Jérôme, vouloir remporter Paris-Roubaix et le Tour de France d'ici 2028. Parce ambitieux quand même.
Ambitieux, mais il faut avoir de l'ambition, surtout quand on est à la tête d'une équipe comme ça. Ils ont quand même des gros moyens avec Decathlon qui est arrivé, leur matériel, leur vélo Vendrisol, etc. Il faut avoir de l'ambition. Si le patron de l'équipe n'a pas d'ambition, comment vous voulez tirer les leaders de l'équipe ou les coureurs à eux-mêmes avoir de l'ambition ? Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver ? C'est autre chose. Paris-Roubaix, je pense que c'est plus accessible qu'un Tour de France pour l'instant. Je ne vois pas qui dans leur équipe actuellement serait capable de gagner le Tour d'ici 2028, mais il y a des mercato d'ici là. Ils vont pouvoir recruter. Pierre-Yves l'a dit, les budgets sont de plus en plus gros. Decathlon AG2R font partie des équipes au gros budget, donc ils doivent avoir des ambitions à la hauteur de leur budget.
On compte plus sur la jeunesse du côté de Decathlon pour aller chercher éventuellement un Tour de France dans l'avenir.
Et ils en ont un sous le coude.
Voilà, mais pour l'instant, en tout cas, ils ont la banane. Hein, parce que franchement, vu ce qui s'est passé sur le début de saison, qu'on les a croisés tout à l'heure, ils disent seulement. Il faut que pendant 3 semaines, 1 mois, ça se passe aussi bien. Ouais. Parce que sinon, le bilan,
Le bilan est fait sur le Tour de France, c'est terrible.
C'est incroyable. La saison qu'ils font, et se dire encore que oui, mais si on passe au travers de notre Tour, on va dire qu'on a fait une mauvaise saison. C'est incroyable.
Et ça leur a été rappelé par l'organisation du Tour lors de la grande conférence de presse qui a lieu avec tous les coureurs et les équipes, en leur disant l'ensemble des épreuves World Tour en termes de retour médiatique ne vaut pas le Tour de France. Le Tour de France est plus important en termes de retour médiatique que l'ensemble des épreuves du World Tour. faut pas se rater.
Disproportionné cette saison cycliste. On rappelle que depuis 3 ans, le bilan français n'a jamais dépassé une seule victoire d'étape par édition. Alaphilippe en 2021, Laporte en 2022 et Lafay en 2023. Est-ce qu'on peut espérer faire mieux ou ce serait déjà bien, Jérôme, d'en décrocher une petite? Une toute petite.
C'est déjà bien d'en décrocher une, mais je pense qu'on va faire mieux. Moi, je pense 2 à 3 victoires d'étape, c'est jouable. Pourquoi ? Parce que justement, on n'a plus trop de coureurs pour le classement général. On n'a que des coureurs qui vont aller chercher des étapes. Donc moi, j'y crois. Le profil, on en a déjà parlé, s'y prête pour pas mal de nos coureurs. Donc voilà, moi, au moins 2 victoires d'étape, je pense, d'ici l'arrivée à Nice.
Dès la deuxième étape, une victoire française.
Et moi, j'ai annoncé dès la deuxième étape, une victoire française.
De qui ?
Axel Lorenz.
Axel Lorenz.
Parce que c'est très dur et je pense que Van Der Poel va être surveillé et Alpecin pourrait lancer Axel à l'avant et pourrait remporter cette étape.
Eh bien, on va allumer un cierge à la magnifique cathédrale de Santa Maria del Fiore et puis on verra si ça marche, mon cher Jérôme. Mais en tout cas, ce serait pas mal parce qu'on rappelle que Victor Lafay, justement, avait, grâce à sa victoire dès la deuxième étape l'année dernière, permis aux autres... de courir relâché, mais sans gagner.
Ça, c'est une pression de fou quand vous êtes coureur français. Si vous ne gagnez pas, les médias, tous les jours, est-ce qu'on va finir Fanny ? Est-ce que vous allez gagner ? Moi, j'ai fait un tour où Riblon a gagné l'avant-dernière étape. Ça nous a sauvés parce qu'on en entendra encore parler.
Très bien. On va peut-être évoquer le cas de Vingegaard et Pogacar, évidemment. Arnaud Souk va nous rejoindre dans quelques instants. On était donc aux conférences de presse de Pogacar et Vingegaard. Vous avez assisté, vous aussi, messieurs, à la prise de parole des deux athlètes. C'est vrai qu'on les a sentis tous les deux contents d'être au départ du Tour. Pogacar, parce qu'il a été victime du Covid il y a 10 jours, donc finalement, il s'est fait une petite frayeur. Et puis Vingegaard, évidemment, qui est ravi de participer à ce tour, lui qui aurait, sur lequel on n'aurait pas misé beaucoup de copecs ni de cacahuètes il y a un mois et demi.
Non, c'est vrai. Après, des conférences de presse pures, je trouve, on n'en tire jamais grand-chose. On n'a pas vraiment d'enseignement. C'est un peu la langue de bois. Ils sont bien, ils sont contents d'être là. Ils ont hâte d'en découdre, etc. C'est pour tout le monde pareil. Maintenant, Vingegaard, connaissant son équipe, connaissant le coureur, s'il est là... ils ont quand même quelques garanties. Est-ce qu'il sera au départ du Tour au niveau de Pogacar ? Pas sûr. Mais par contre, avec le niveau qu'il a, en tout cas pour jouer un podium, même à 90%, il est capable de faire podium. Il va s'améliorer au fil des jours. À mon avis, c'est tellement mathématique chez Jumbo. Quand ils étaient en stage en altitude à Tignes, etc., ils ont dû faire toute une batterie de tests, des tests avec la puissance, etc. Ils ont dû voir que les chiffres étaient bons. La seule inquiétude que j'ai pour Vingegaard, c'est comment il va se comporter dans le peloton. Parce qu'il n'a pas couru depuis le Pays Basque. On sait que sur le Tour de France, ça frotte énormément. Il va avoir, bien sûr, la peur de la chute de nouveau. Donc, il faut trouver ses repères. Normalement, tu démarres au Dauphiné, tu reprends au Dauphiné, tu retrouves un peu tes repères dans le peloton. Mais à son avantage, la première étape va être très difficile. Ça va frotter un petit peu moins.
Et d'ailleurs, il avait prévu de faire juste le Dauphiné. Il a raté que ça, finalement, dans son programme. Mais c'est de la compétition et ça pourrait avoir un poids important.
Et puis,
important.
Pour la confiance sur le vélo, retrouver ses habitudes, être au contact des autres. Au contact, je ne dis pas de voir les copains dans le peloton, mais frotter un peu les coudes. Voilà, ça frotte. Et la première étape du Tour, on n'a pas le temps de se mettre en route. Il faut tout de suite être opérationnel. Donc, mentalement, ça ne sera pas simple pour notre ami
Vingegaard. Il faut être un vieux Gaulois qui a vraiment
d'expérience. Il y en a un vieux Gaulois qui vient de débarquer. Messieurs, on va vous laisser. On va faire, comme à l'américaine, on va faire un passage de relais et on va accueillir
les remplaçants,
les remplaçants ou la team principale, je ne sais pas. Arnaud Souk et Cyril Guimard qui le rejoignent. Merci Jérôme, merci
Pierre. Salut les amis.
On vous retrouve donc évidemment dès samedi 14h pour le départ, pour le grand départ de ce Tour de France. Monsieur Guimard est arrivé en terre italienne. Comment ça va, mon Cyril?
Molto bene.
Heureusement qu'il est là. Non, parce que Arnaud aussi se débrouille bien en italien quand même.
Oh, alors, perfetto.
Non tanto.
Bon, messieurs, on va parler de Vingegaard et Pogacar, oui, puisque tu étais avec eux il y a quelques instants. Cyril, déjà, le fait d'être en Italie, toi, l'Italie, tu as connu évidemment, tu as dirigé des courses ici avec tes coureurs, tu as couru aussi en Italie. On le disait tout à l'heure, c'est un vrai pays de vélo et ça fait plaisir d'être au départ du Tour dans ce pays, surtout dans cette ville sublime.
Oui, c'est une ville extraordinaire que j'ai eu l'occasion d'ailleurs je ne vais pas dire de visiter parce que j'étais mal en point, mais d'y passer quelques heures. Et puis, pas seulement parce que c'était il y a à peu près un an, aussi parce que j'y suis passé au travers des Giro d'Italia, soit à l'époque de Bernardino ou de Laurent Fignon. Et effectivement, c'est un pays qui est fait pour trouver des parcours extraordinaires, ouais, pour les courses cyclistes. Parce que l'Italie a ceci de particulier, c'est que c'est une botte et que vous passez d'un côté de la botte à l'autre et de toute façon, vous avez une épine d'or.
C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a déjà des montagnes dès la première étape. Hein. C'est pas, pas une volonté de durcir manifeste.
Non, ou alors il faut aller dans la vallée du Pô, mais oui. Quand même pour les commentaires. Non,
hein. C'est clair.
Alors Arnaud, tu rentres de la conférence de presse donnée donc par Jonas Vingegaard et par Tadej Pogacar, on en parlait il y a quelques instants. Ça fait quand même plaisir de retrouver Vingegaard parce que on le disait, on n'aurait pas parié beaucoup de cacahuètes sur sa présence au départ après sa chute terrible dans le Tour du Pays Basque. Quelle impression t'a-t-il fait tout à l'heure lorsque tu l'as rencontré? Est-ce qu'il t'a semblé serein? Est-ce qu'il t'a semblé sûr de lui à la bord de ce Tour de France?
Il m'a semblé sûr de lui dans la mesure où il disait qu'il ne se sentait pas dans la possibilité de répondre à la question « Est-ce que vous venez sur le Tour de France pour le gagner ?» Voilà, il a dit « J'en sais rien, franchement, je vais voir. Il y a 3 semaines qui vont se dérouler, c'est que du bonus. » Il a répété à plusieurs reprises « C'est que du bonus de pouvoir faire ce Tour de France. » C'est dire à quel point il est vraiment content d'être sur le vélo parce que voilà, il a aussi expliqué qu'il venait de passer tout simplement les 3 mois les plus difficiles de sa carrière, Jonas Vingegaard. Donc, je crois qu'il va falloir quand même attendre un petit peu de voir. Et c'est vrai que la question elle a été formulée de la manière suivante. Est-ce qu'on peut gagner le Tour de France 3 mois après avoir subi une telle chute? Mais il a dit honnêtement, je n'en sais rien. Je vous le dirai dans 3 semaines. Pour l'instant, je n'en sais rien. Et ça me paraît honnête. Il y a peut-être un petit peu de com' derrière tout ça, mais ça me paraît quand même être une réponse au moins un petit peu honnête quand même de Jonas Vingegaard, Cyril.
Bien, je pense que où il est très honnête, c'est le plaisir d'être au départ du Tour de France. Aux sorties de 3 mois, de très grosses galères. Maintenant, quel est son niveau de conditions physiques, quel est son niveau de performance au départ de ce tour? Il a raison de dire qu'il ne sait pas où il en est, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on remettrait en cause toutes les lois physiologiques et biologiques. Mais je pense honnêtement, moi, je souhaite le contraire, mais là ça serait grave pour les autres, je pense qu'il sera quand même juste au départ de ce Tour de France. D'autant qu'on attaque tout de suite par la montagne. Des étapes difficiles. Et ça m'étonnerait quand même que Pogacar lui donne quand même un sursis.
Mais en particulier, deuxième étape.
Il va vouloir tuer la bête dès le départ.
Et c'est quand même préférable, c'est une compétition. Ouais. C'est pas la fête du quartier.
Oui, et puis alors, rappelons quand même sur cette deuxième étape, la côte de San Luca, qui est vraiment complètement correspondante aux caractéristiques de puncher de Tadej Pogacar, beaucoup moins au talent de grimpeur de haute montagne qu'est Jonas Vingegaard. Donc forcément, là, il va y avoir...
Ça peut faire des différences, cette côte, ça peut faire quoi?
Manifestement, on espère... ça fera pas, on va pas perdre le Tour de France dans la côte de San Luca. Après, c'est clair qu'il peut déjà y avoir quand même quelques petites secondes d'écart, je pense. Et quand on voit à quel point Tadej Pogacar est capable de creuser des écarts sur des montées de ce type, finalement, c'est pas sans faire penser au mur de Huy, quelque part, la montée de la côte de San Luca. Alors, le mur de Huy, il y a peut-être des pourcentages parfois un tout petit peu plus élevés, mais on est capable quand même de creuser, de faire 10-15 secondes peut-être pour Tadej Pogacar. Et c'est déjà ça, quand on se souvient l'an passé, à quel point ça a été serré.
Plus les bonifications.
Voilà, plus les bonifications, évidemment.
On se retrouvait vite à 30-40 secondes sur ce genre de parcours. Et puis, c'est aussi le retour à la compétition de Vingegaard. Et on n'est jamais très à l'aise sur les premiers jours de compétition. Il faut qu'il retrouve des automatismes. Ça, c'est évident. Mais pour moi, le plus important, je pense qu'il peut, sur le jus, limiter la casse. Mais quand on va avoir passé Turin et qu'on va aller sur les montagnes françaises, les grands cols, là, je ne pense pas qu'il pourra tenir le rythme.
D'autant qu'il y a quand même ce nombre de kilomètres assez important, à plus de 2000 mètres d'altitude. Cette année, on va être 50 kilomètres à plus de 2000 mètres d'altitude. Alors, il y aura une partie de ces kilomètres qui seront en descente, mais il y aura quand même une bonne partie qui seront en montée. C'est 5 fois plus que ce qu'on avait connu l'an passé. Donc, même si on sait qu'il a beaucoup de talent au-delà de 2000 mètres d'altitude, c'est vrai que peut-être que...
oui, on rappelle que c'est les poumons qui ont été touchés.
Voilà, on rappelle quand même qu'il
ça sert quand même pour un coureur cycliste.
Donc, c'est une donnée à prendre en compte.
Je ferai une petite, non pas comparaison, parce qu'elle ne peut pas être faite aujourd'hui, mais quand vous prenez Egan Bernal, qui était à peu près dans le même état, on ne va pas faire l'autopsie 2, mais Bernal n'a toujours pas retrouvé son niveau. Il est très proche de son meilleur niveau. Peut-être va-t-il l'atteindre dans le Tour de France, mais ça fait 2 ans.
Oui, mais t'as raison, si on se projette quelques années en arrière, Froome, c'est pareil. Il avait eu sa chute sur le Dauphiné, sur le Rocco du contre-la-montre. Il n'a jamais récupéré. Alors, on souhaite, évidemment.
Il était plus vieux,
effectivement. Mais c'est vrai que c'est des accidents qui peuvent parfois marquer. Et on espère que ce ne sera pas le cas pour Jonas Vingegaard.
Nous verrons ça.
Pour notre suspense, en tout cas. Ouais,
oui, parce qu'on aimerait bien quand même avoir du suspense. On s'est quand même régalé les années précédentes. Là, on en parlait tout à l'heure, un plateau fabuleux. On le souhaitait.
Je ne sais pas si on a déjà eu un plateau aussi. Aussi gros sur le Tour de France.
Je ne me souviens pas, peut-être Cyril, qui en a fait plus que nous réunis. Mais bon,
c'est difficile de le dire, parce que là, on a un plateau, mais est-ce que dans les favoris de ce Tour de France, là, on vient d'apprendre que Evenepoel, qui n'était pas aérien sur sa dernière compétition, est malade. Alors, apparemment, il ne l'est plus. Mais là où il aurait dû aller chercher l'écran pour aller chercher son meilleur niveau, il est malade. Donc, lui aussi, il risque peut-être d'être un petit peu court au départ. Donc, Vingegaard, Evenepoel, apparemment, ce n'est pas brillant.
Oui,
après, qu'est-ce qui reste ?
Oui, mais Cyril, on a appris aussi tout à l'heure que Tadej Pogacar a eu le Covid il y a 10 jours. Ça, c'est
Et qu'il a passé un jour KO. Hein.
Et qu'il a passé un jour
bon,
KO.
Après,
on le disait tout à l'heure, c'est plus le même Covid qu'il y a 4 ans. Hein,
voilà. Aujourd'hui, et puis...
Mais bon.
Non, mais forcément, c'est quelque chose qui va marquer. Mais j'ai l'impression quand même, et on n'est pas dans les tests PCR qu'on peut être réalisés par les équipes et qui sont très nombreux. Mais à mon avis, il y a quand même un bon paquet de coureurs qui l'ont eu. Il y a déjà eu plusieurs coureurs, notamment au championnat de France, qui ont zappé les championnats de France.
Aujourd'hui, c'est un simple rhume.
Simple rhume, je ne sais pas. Mais en tout cas, manifestement, et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont pu potentiellement rattraper.
Le nom fait peur, c'est ça.
mais c'est vrai que par contre, c'est quand même une donnée à prendre en compte cette année, le Covid, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec nos amis de Décathlon à G2R la mondiale, qui nous expliquait que les services médicaux avaient un petit peu alerté sur la nécessité peut-être de remettre en place certaines...
Ils vont nous refaire le coup tous les ans, quoi.
Tous les ans, voilà.
Peut-être, alors des masques, je sais pas, mais c'est
et
vrai que voilà, certaines...
jours, il va y avoir les suspicions de dopage.
Certaines règles barrières.
Donc, le Covid au départ, les suspicions à la fin. Encore que je pense qu'on va peut-être être un peu plus tranquille.
Et puis entre-temps, on va passer par les vignobles de Bourgogne et là, tu seras dans ton élément.
Il y a les élections, donc peut-être qu'ils vont oublier.
Bon, Poggi, en attendant...
Poggi, j'ai envie de dire, tous les voyants sont au vert. Hein.
Ouais, mais en plus, il est d'une décontraction totale.
Ouais, il est cool.
Vingegaard, lui, était accompagné de madame et de sa petite fille. Tu le sens quand même encore marqué par le truc. Et puis, il n'est pas expansif comme peut l'être Pogacar. Mais,
alors, Pogacar, qui d'ailleurs, je me permets de le relayer ici, puisqu'il l'a dit lui-même tout à l'heure en conférence de presse, qui a perdu un de ses, ses grands-pères également. Donc, ça fait quand même. Il a été obligé de retourner en Slovénie. Il a été en stage d'entraînement à Isola 2000. Il est retourné en Slovénie pour les obsèques de son grand-père. Il y a eu ce Covid, mais manifestement, quand même, il a l'air d'avoir passé plutôt une bonne période de récupération, puisqu'on rappelle qu'il n'a plus couru depuis le Giro qu'il a absolument survolé
au mois de mai.
On rappelle qu'il a quasiment survolé toutes les courses sur lesquelles il s'est aligné depuis le début de l'année. Est-il capable de réaliser le doublé Giro Tour de France? Le dernier à l'avoir fait, c'est Marco Pantani en 1998. On a envie de dire quand même que Tadej Pogacar
pour le faire.
Oui, voilà, et puis il nous laisse penser que ça pourrait potentiellement être possible, quoi.
Oui. Ça peut être possible, je vais même aller un petit peu plus loin, vous ne serez pas surpris de ce que je vais dire. Ils peuvent faire 1-2-3 les UAE, parce qu'autant ils ont été très mauvais il y a 2 ans. L'an dernier, à moitié bon. Cette année, ils ont une équipe de feu.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de leaders justement dans cette équipe, Cyril?
Non, il n'y a qu'un patron dans cette équipe. Oui. Okay. Non, Yates et Almeida. D'ailleurs, ils l'ont même prouvé entre eux. Donc,
sur le Tour de Suisse.
Donc, quand vous avez un type comme Pogacar dans votre équipe, vous ne tirez pas votre plan tout seul.
Alors, un mot sur les autres, parce que
Ah, il y en a d'autres.
Eh oui, il paraît qu'il y en a d'autres. On a évoqué tout à l'heure Roglic, on a évoqué Evenepoel qui dispute son premier Tour de France. C'est vrai que sur le papier, c'est extraordinaire. Est-ce que vous les voyez challenger Vingegaard et surtout Pogacar?
Moi, je prends un petit pari. Bon, après, encore une fois, je ne connais pas l'état exact de Vingegaard, mais je prends le petit pari que Matteo Jorgensen va faire un très grand Tour de France. Et je le vois volontiers se mêler dans le cas d'une défaillance de Vingegaard.
Il était d'ailleurs aux côtés de Vingegaard tout à l'heure.
Il était tout à l'heure aux côtés. Voilà, c'est quand même un garçon. Alors lui, c'est pareil, on va apprendre à le découvrir. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure avec Jérôme et Pierre-Yves des jeunes Français, de Lenny Martinez, de Paul Lapeyra, de Romain Grégoire. Lui aussi, on va apprendre à le découvrir. C'est un jeune coureur qui a quand même gagné Paris-Nice en début d'année, qui a fait des excellents résultats sur les courses flandriennes, qui derrière a été très très bon également sur le critérium du Dauphiné où il a terminé juste derrière Primoz Roglic. Il a bien failli, ça s'est joué à quelques secondes, à 7 ou 8 secondes près, mais il a bien failli revenir.
8.
Donc voilà, 8. T'avais sorti ton chrono.
Non, mais ça lui fait mal ça.
C'est vrai.
Ça lui fait mal les 8 secondes.
Là c'était uniquement le Dauphiné.
Moi je verrais bien Matteo Jorgensen et puis il y en a un autre qui aimerait bien se mêler à la lutte, ou en tout cas dont l'équipe aimerait bien qu'il se mêle à la lutte, c'est Félix Gall, l'Autrichien de l'équipe des 4 G2R.
Justement, c'est 8 secondes. On rappelle que ce tour va s'achever par un contre-la-montre. La dernière fois, tu étais un des acteurs, c'était en 1989. Est-ce que ça t'excite ça, Cyril ? Est-ce que c'est excitant, le fait d'avoir cette dernière étape, ce contre-la-montre entre Monaco et Nice ? Est-ce qu'on peut envisager un scénario à la Fignon-Lemon de 89 ?
Tout à fait. Ce n'est pas impossible quand on voit en règle générale que les classements finaux des courses à étapes, pratiquement, vous avez 10 coureurs en moins de 2 minutes, donc tout est possible. Et sur ce type de parcours, en plus exigeant, difficile, en fin de Tour de France, oui, il peut y avoir des effondrements ce jour-là. Mais je préfère cette étape contre la montre le dernier jour. Ça nous évite le spectacle des coupes de champagne pendant 70 km sur la dernière étape, qui n'en est pas une à part les Champs-Élysées.
Mais non, mais le champagne, ils le boiront après.
Oui, non, mais alors, moi, je trouve que on va pas refaire le débat, l'éternel débat des Champs-Élysées, mais bon, c'est aussi pour beaucoup de sprinteurs à chaque fois l'occasion d'avoir déjà le titre honorifique de champion du monde des sprinteurs, comme ils disent. Et puis,
la course des sprinteurs avait lieu sur les Champs-Élysées.
Oui, la course des... Non, peut-être, mais en tout cas, ça permet au moins aux sprinteurs de s'exprimer une dernière fois, sachant que dans les jours d'avant,
ils ont quand même quelques.
Non, je dis pas qu'ils ont pas. Je dis que juste dans les jours d'avant, ils sont un petit peu rôtis et qu'on les un petit peu oublié.
Il y en a qui risquent d'abandonner largement avant l'arrivée à Paris.
Tu penses à qui?
Non.
Mais non, il y a quand même, même si ce ne sera pas pour les sprinteurs, mais la course olympique qui arrivera derrière. Merci messieurs, on a hâte évidemment de se retrouver samedi, comme tous les ans, depuis plus de 20 ans maintenant, 14h-18h pour l'intégral tour et puis évidemment l'after tour qui jusqu'à la fin de l'Euro sera diffusé entre 19h et 20h sur la radio numérique. Et ensuite, la dernière semaine, il sera sur la radio premium. On a hâte. Alors, d'autant que c'est peut-être le dernier. Alors, je ne sais pas, il nous le confirmera durant le Tour de France, mais c'est peut-être le dernier de notre druide.
Oui, ça n'est absolument pas impossible. D'ailleurs, il faut.
C'est pas impossible non plus.
Il faut qu'on négocie quand même les indemnités de départ.
Ça va nous coûter cher cette histoire. Ça va nous coûter cher en bouteille. Merci mon Cyril. Hâte de débuter ce tour parce que l'année dernière, il était resté dans sa Bretagne natale. Il nous écoutait.
Il était bien là, dans son petit salon là.
Il n'était pas bien du tout. Je ne vous permets pas de me chambrer sur ce plan-là. Allez, sinon ma vengeance sera terrible.
À ça. Samedi, 14h pour le début de l'intégral tour. Bonne soirée et on a hâte que ce tour débute. Ciao, ciao.
RMC, Grand Plateau.